La conversion de Constantin pose beaucoup de questions. Cette conversion s'est opérée au moment même donc de la bataille de Ponte Milvio. Mais en quoi a-t-elle consisté? Est-ce qu'il s'est converti au Dieu de Jésus-Christ? Ou bien s'est-il converti à cette religion monothéiste très en vogue alors, du sol invictus, le soleil invaincu, le soleil toujours vainqueur des ténèbres? Car Constantin n'a pas reçu le baptême après sa conversion. Il a reçu le baptême à la fin de sa vie, et encore de la part d'un arien, donc d'un hérétique. La grande importance de la conversion de Constantin, c'est que précisément, il a entraîné une modification fondamentale du système politique.
Pourquoi Constantin n'a-t-il pas reçu le baptême ?
Il n'a pas reçu le baptême, pourquoi ? Parce que, en étant empereur, il était en même temps le summus pontifex, le souverain pontife. Et même si, au IVe siècle, beaucoup de Romains n'avaient plus, disons, une très grande piété envers la religion officielle, celle-ci demeurait cependant un élément unificateur de l'ensemble de l'Empire. Pour cette raison, donc, semble-t-il, Constantin n'a pas voulu recevoir le baptême tandis qu'il était en plein accomplissement de ses fonctions impériales, parce que ça aurait été tout le système de l'Empire qui aurait été mis en péril. Donc Constantin a préféré certainement une évolution plus douce de la situation, et alors nous arrivons donc aux conséquences de la conversion, en particulier ce que l'on a appelé l'édit de Milan, qui en réalité n'est pas un édit, mais une lettre circulaire, qui étend à l'ensemble de l'Empire un édit de tolérance qui avait été pris quelques années auparavant.
Comment l'édit de Milan, à l'époque, change-t-il la vie des chrétiens ?
À ce moment-là, les chrétiens ont droit de citer. Le christianisme n'est pas encore la religion officielle, mais c'est une religion qui est tolérée, alors qu'avant, elle était persécutée. D'où une grande influence sur la situation de l'Empire dans les années à venir. Car ne l'oublions pas, au moment où les barbares vont assaillir l'Empire, l'Empire s'écroule de l'intérieur, à ce moment-là, que reste-t-il ? Il reste à Rome le pape, et dans le reste de l'Empire, les monastères. Et c'est ce qui va permettre le passage de l'Empire romain à une nouvelle société qui va englober naturellement les Gaulois et toutes les autres tribus qui composaient l'Empire de Constantin. Si vous regardez aujourd'hui une carte de l'Empire de Constantin, enlevez tout ce que l'islam a pris sur la rive sud de la Méditerranée et au Moyen-Orient et jusqu'en Turquie, et vous aurez la carte de l'Europe occidentale et centrale. C'est dire que la conversion de Constantin a permis l'évangélisation pacifique de toute cette partie de l'Europe, et c'est ce qui a constitué l'Europe. Il faudra attendre plusieurs siècles pour qu'avec le baptême du prince de Kiev, ce soit l'actuelle Ukraine et la Russie qui deviennent chrétiennes. Ce sont les dimensions actuelles du Conseil de l'Europe, dont le siège est à Strasbourg, et qui compte 48 États.
Est-ce qu'on peut voir un lien, justement, entre ce que vous avez dit, donc cet édit de Milan qui serait à la base de la construction de l'Europe, de la construction géographique de l'Europe? Est-ce qu'on peut voir un lien avec un thème qui est très cher à Benoît XVI, la nouvelle évangélisation?
Naturellement, au temps de Constantin, il s'agissait de la première. Et cette première évangélisation a été fondamentale, parce que comme le disaient Saint Benoît et les premiers bénédictins, il fallait avoir en même temps la croix et la charrue. C'est ainsi que s'est construite l'Europe, avec le déboisement, avec le développement de l'agriculture et en même temps l'annonce de l'Évangile. Car, ne l'oublions pas, l'œuvre de l'évangélisation de l'Europe est surtout partie des monastères. Et il suffit de penser par exemple à Saint Boniface, qui de Rome est allé évangéliser toute l'Allemagne. Il s'agit évidemment de voir comment cette première évangélisation a modelé la culture qui fait que nous sommes européens et que nous ne sommes pas asiatiques, alors que nous sommes sur un continent qui ne possède pas de frontières naturelles entre l'Europe et l'Asie. Les frontières de l'Europe sont les frontières de la première évangélisation. Et c'est ainsi que toute la culture de cette Europe a été en quelque sorte façonnée par les principes mêmes de l'Évangile. Et qu'aujourd'hui, vous vous retrouviez à Novosibirsk ou bien à Porto, au Portugal, dans le fond, à travers les différences des cultures locales, vous retrouvez les mêmes valeurs, ce sont celles de l'Évangile, qui ont été donc semées dans cette Europe à la suite de la conversion de Constantin.